France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Le train est indispensable au rayonnement de la commune, à la fois pour des aspects socio-économiques et également des aspects environnementaux.
Nous considérons qu'il n'y a pas de petites gens, il n'y a pas de petits territoires, donc il n'y a pas de petites lignes. C'est absolument péjoratif de le qualifier de petit, parce que ça sous-entendrait qu'il y a des grands, et donc ça sous-entendrait qu'il y a ceux qui ont le droit et ceux qui n'auraient pas le droit.
J'ai l'habitude de dire que ce fut un long combat et une grande bataille du rail. C'est une grande dame, la SNCF.
Les Français préféreront-ils le train pour aller rejoindre leur famille pour les fêtes? Cet été, la SNCF a transporté 10% de voyageurs de plus qu'elle était 2019 avant la crise sanitaire. L'une des explications, c'est la prise de conscience de l'urgence climatique et de la nécessité de réduire notre empreinte carbone. Dans cet état d'esprit, la Commission européenne vient d'ailleurs de valider la mesure française de suppression des vols intérieurs quand existe une alternative en train de moins de 2h30. Au même moment, on assiste au retour en grâce des trains de nuit. Quasiment disparus en France, il pourrait être une dizaine à rouler d'ici 2030. Mais il y a tout de même de très nombreux obstacles sur les rails, à commencer par la menace d'une nouvelle grève pour les vacances de Noël. Les syndicats de la SNCF estiment insuffisante l'augmentation générale de 2% promise par la direction. Mais les voyageurs se plaignent aussi des tarifs, parfois prohibitifs, des retards à répétition dus au manque de conducteurs comme à la vétusté du réseau. Les voies ont 29 ans en moyenne contre 17 en Allemagne. Pour adapter l'offre de voyage aux besoins des Français et des touristes, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, ambitionne de doubler la part du train en France d'ici 2030, chantier qu'il évalue à une centaine de milliards d'euros. Mais qui pourrait assumer une telle dépense? Les régions, déjà largement mises à contribution, l'État sollicité de tous côtés, surtout en cette période d'inflation. Le train peut-il s'offrir une nouvelle jeunesse? C'est un reportage signé Hakim Kasmi. Donc en reportage, nous accueillons aujourd'hui Alain Krakowicz, directeur de TGV Intercité. Bonjour.
Bonjour.
Également avec nous l'historien du rail, Clive Lamming. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit de très nombreux livres sur les trains et les gares. Alors nous allons prendre le train tous ensemble avec Hakim Kasmi. Bonjour Hakim.
Bonjour Aurélie Kiefer.
Vous avez fait bien des kilomètres en train pour ce reportage.
Effectivement, nous sommes partis du nord au sud, au nord tout d'abord en Picardie, voir comment sont restaurés les trains de nuit, puis direction Nice, justement à bord d'un train de nuit, où nous irons également prendre le train des Merveilles, un TER qui est une ligne classique, mais qui est l'une des lignes touristiques les plus prisées par les Français, mais aussi par les touristes étrangers. Nous partirons dans la région voisine, en Occitanie, assister à la rouverture d'une ligne, celle entre Pont-Saint-Esprit et Avignon, qui a repris du service après 50 ans de fermeture. Puis nous verrons comment se prépare par le train du futur et en particulier le TGV du futur qui arrivera bientôt sur les rails, à partir de 2024.
Et vous nous emmenez d'abord en Picardie à Ternier, dans l'un des deux technicentres de France où sont réparés notamment les trains de nuit. Vous avez été accueilli par Arnaud Gallois, le directeur de la communication.
Alors c'est un bâtiment en brique d'une grande hauteur, il fait plus de 15 mètres de haut. C'est un bâtiment qui a 12 voies ateliers. Les 12 voies ateliers pour faire la maintenance sur du matériel ferroviaire. Et donc, en fait, les voitures arrivent sur le triage de Ternier. Puis après, on a un mouvement qui est assuré par Fret SNCF et qui nous fait rentrer les voitures directement dans l'atelier.
Et bien, on est parti, on y rentre.
Alors, ce qu'on entend, c'est le transbordeur, c'est le mouvement pour annoncer le mouvement de la voiture. Donc là, la voiture, elle est en train de partir de la voie 16 et elle va aller jusqu'à la voie 7.
Alors c'est une voiture de quel type de train?
Alors là c'est une voiture train nuit, un compartiment couchette. On peut rentrer dans le bâtiment. Voilà, donc là on est dans la zone. Là les voitures sont plutôt bien avancées. Le toit est blanc. Alors, pourquoi le toit est blanc? C'est parce que ça permet de gagner 1 ou 2 degrés quand il fait chaud. Un peu plus de réverbération par rapport au toit qui était avant noir. Donc c'est aussi une petite évolution qui est faite. La voiture qui est là, elle est vraiment en cours de remontage. Donc les baies sont pas là. On voit des agents, ils sont à l'intérieur, ils sont en train de remonter les banquettes. Donc, les banquettes transitent, on les fait passer par la fenêtre. Les baies sont remontées par la suite.
Alors ces banquettes, on va pas les jeter, on va les retaper.
Non, en fait, à la SNCF, on jette pas grand-chose. Les banquettes, on va les retaper, les tampons de choc. Les organes de frein, les bogies, les essieux, les sanitaires. À la SNCF, on fait beaucoup de ça. On dépose la pièce, on l'expertise, fait de la maintenance, on adapte la maintenance. Et après, cette pièce-là, on va la remonter, on lui redonne une deuxième vie. C'est vrai pour du matériel corail, c'est vrai pour du TER, c'est vrai pour du TGV. C'est pour ça qu'on a une force industrielle à SNCF, côté matériel, pour faire de la maintenance sur les pièces déposées.
Alors malgré tout, on est en 2022, ces trains datent des années 70. Qu'est-ce qui va changer pour le confort de l'usager qui prendra le train de nuit?
Alors, pour les voitures qui sont traitées ici à Terny, le confort va être amélioré parce qu'on va retrouver de la mousse qui est neuve, la moquette dans la circulation, elle est changée, la climatisation, elle est changée, donc elle a probablement une meilleure performance également. Je vous parle du toit blanc, donc en été, il fait un petit peu moins chaud quand même. On a du Wi-Fi également, on rajoute des antennes Wi-Fi sur le toit pour pouvoir offrir le Wi-Fi. Donc on retrouve une configuration peut-être un petit peu ancienne, mais qui retrouve un beau succès avec nos clients.
Et les mousses des matelas seront changées aussi afin que les lits soient plus confortables?
Exactement, on change la housse, on change les mousses, on retrouve un confort de circulation qui est quand même pas mal.
Alors moi c'est Aurélien et ça fait 16 ans que je suis au Technicien de Picardie et maintenant je suis aménageur intérieur.
Alors Aurélien, quelle est votre fonction sur ces trains de nuit? Qu'est-ce que vous faites?
On rénove toute la partie intérieure, aménagement intérieur, moquette, banquette, voilà.
Est-ce que pour vous c'est une fierté de restaurer ces trains de nuit?
Une fierté, oui, surtout que ça nous change. Avant on faisait du fret, et là on est passé... aux voyageurs, donc ça change complètement de travail et ouais, c'est une fierté. Et puis c'est un nouveau travail qu'on est obligé d'apprendre des nouvelles choses, donc c'est intéressant. Ouais.
Qu'est-ce que vous avez dû réapprendre en termes de travail?
Alors, par exemple, sur tout ce qui est pose de moquette, gratte-pied pour les passerelles, les couloirs, ça c'était un métier qu'on ne connaissait pas et on a découvert sur le tas.
On peut aller voir comment vous travaillez dans les voitures?
Oui.
Et on vous suit? Là, on est dans le couloir, là. Et autour de nous, il y a tous ces compartiments qu'on connaît bien dans les trains de nuit, avec beaucoup d'outils par terre, c'est normal, hein, le train est en réfection. Alors ça y est, on est dans un compartiment qui vient d'être refait. D'ailleurs, on le sent, ça sent neuf. Hein.
Oui, tout à fait, oui. Même la peinture, tout a été refait. Les banquettes sont neuves, les parois, c'est neuf. La moquette est neuve aussi. Tout a été remplacé.
Alors qu'est-ce qui change par rapport à l'ancienne version des trains de nuit sur ce nouveau train?
On remet la même configuration pour ce type de voiture. On remet exactement les mêmes choses qu'il y avait. Hormis une modification, on apporte un petit peu de modernisme pour mettre la Wi-Fi. Mais sinon c'est tout. On remet exactement la même chose.
Alors d'ailleurs là on le voit, il y a 6 places, là, il y a une banquette, deux banquettes, trois banquettes.
Ouais. 6 banquettes. Les banquettes intermédiaires, on peut les relever pour s'asseoir. Et sinon, pour se coucher, on peut les rabaisser et on se couche dessus.
Alors on voyait même comme des petites ceintures pour éviter de tomber pour ceux qui sont en hauteur.
Exactement, ouais, c'est la sécurité, ils sont attachés l'une à l'autre.
Alors il est 20h30, nous sommes ici gare d'Austerlitz et nous allons prendre le train de nuit direction Nice. Un train de nuit qui a été remis en service en mai 2021, qui connaît beaucoup de succès. Il y a dans ce train des familles, des jeunes, des étudiants, mais aussi des personnes qui viennent à Paris pour le travail, comme nous le verrons à bord de ce train direction Nice. Nice, où nous arriverons demain matin à 9h15.
19h25 et 19h26.
Exact. On ne peut pas aller par hasard en première classe.
Ce soir, notre train affiche complet. À bord, l'ambiance est conviviale et tout le monde cherche son compartiment. Une fois installés dans leur couchette, les voyageurs devront cohabiter dans des compartiments mixtes pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes en seconde classe, comme Andrea, Philippe et Patrick, qui se préparent à dormir.
Alors, c'est ma valise.
Alors Andrea, pour quelle raison vous avez pris le train de nuit pour aller à Nice?
Alors moi, j'ai à Marseille, tout simplement, pour rentrer chez moi, mais je repars le lendemain.
Alors pourquoi avoir pris le train de nuit et pas le TGV ou l'avion?
Parce que c'était les horaires qui m'arrangeaient.
Alors comment vous l'appréhendez ce voyage qui est long, hein, c'est 12 heures?
Je vais dormir, hein. Plein de choses à faire, m'occuper. Hein. J'espère que mes compatriotes ne ronflent pas, je vous avouerai. Mais...
Alors vous connaissez un peu les uns les autres ou pas du tout?
Pas du tout, pas du tout là.
C'est aussi ça le charme des trains de nuit, c'est l'ambiance aussi?
Exactement, la rencontre, c'est très drôle. Dormir dans un train, tout le monde le fait, mais avec une couchette, c'est encore mieux.
C'est la première fois que vous prenez le train de nuit?
Ouais. Ouais, c'est la première fois.
Merci beaucoup, Andrea. Bon voyage. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent parler aussi?
Ouais, bien sûr. Allez,
quel est votre prénom?
Alors, moi, c'est Philippe.
Alors, Philippe, vous êtes tout en haut. Là, on décrit un petit peu. Il y a 6 couchettes et vous êtes sur la 3e qui monte. Ça
permet de respirer le mieux.
Ah, on s'en habitue là, non?
Ouais, un peu. Enfin, un peu. Je croyais que ça n'existait plus, en fait, les trains de nuit.
Alors, pour quelle raison vous avez pris le train de nuit?
Alors, j'ai l'enterrement d'un oncle à Toulon. Et en fait, un peu comme Mademoiselle Andrea. Au niveau des horaires, là, je travaillais à fond là, toute la journée. Et il n'y avait que ça qui pouvait arranger au niveau des horaires.
En tout cas, on sent que tout le monde est respectué et tout le monde est organisé. Hein.
Bah, on essaie, ouais, c'est vrai qu'on a posé là, l'un et l'autre nos chaussures. Le truc, en même temps, c'est toujours, on a toujours peur des odeurs de pieds, des trucs comme ça. Comme des odeurs de bouffe, c'est pour ça que j'étais bouffé plus loin. Pour pas déranger, en fait, j'ai été mangé un petit peu dans le coin, parce que on est un peu comme dans un sous-marin en même temps. Hein.
Alors vous qui avez bien connu les trains de nuit il y a longtemps, est-ce que vous trouvez qu'il y a un petit changement avec ces trains qui ont été un peu restaurés, qui ont été un peu renouvelés, même si ça reste des vieux trains, mais que pensez-vous du confort?
Les changements, oui, effectivement, c'est beaucoup plus confortable, en sens où, je sais pas si les bannettes sont plus larges, mais j'ai presque l'impression, je trouve ça très très propre, mais bon, parce qu'il est neuf, après il faut voir avec l'usage. J'ai apprécié le fait qu'il y ait une bouteille d'eau, j'ai pas encore ouvert la petite pochette en craft où j'ai je sais pas quoi dedans, mais non, c'est ouais, vraiment bien. Ouais.
Merci beaucoup, Philippe. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veut parler? Je vous en prie.
Là, en bas?
Oui, oui.
Il y a monsieur. Je peux m'asseoir?
Quel est votre prénom, monsieur?
Patrick.
Ah, Patrick, vous partez où?
Je vais à Marseille, également. C'est pour raison professionnelle. Donc, la journée à Marseille, et je repars demain avec le train de nuit, demain soir.
Et pour quelle raison n'avez-vous pas pris, par exemple, le TGV en fin d'après-midi ou l'avion?
Alors l'avion, parce que déjà moi j'habite près de Tours et le seul avion qui fait Tours-Marseille, il ne le fait pas aujourd'hui. Voilà. Et puis aussi parce que l'avion, c'est pas non plus ce que je préfère, ne serait-ce que pour le climat, donc je préfère prendre le train. L'hôtel, c'est pas toujours ce que je préfère, donc là je passe la nuit dans le train, je dors, le lendemain matin je suis frais pour la prestation et puis je peux revenir direct le soir.
Et pour vous, on dort mieux dans le train de nuit qu'à l'hôtel?
Il y a forcément une petite différence, hein, parce qu'on est, on est à plusieurs. Alors, en fonction des trajets, on peut effectivement, comme le disait Andrea tout à l'heure, avoir un client qui fait un peu de bruit, mais ça ne m'est pas encore arrivé jusqu'à maintenant. Et jusqu'à maintenant, j'ai plutôt bien dormi dans le train de nuit, oui.
L'aspect environnemental, ça compte beaucoup aussi dans votre décision?
Quand il y a un choix à faire entre le train et l'avion, surtout en regardant bien aujourd'hui, sachant qu'il faut arriver tôt à l'aéroport pour embarquer, etc., quand on reste sur le territoire national, il y a très peu d'écart en termes de temps. Hein, donc voilà, moi ça ne me pose pas de problème de prendre le train, au contraire.
Est-ce que vous trouvez que dans les trains de nuit, il y a une ambiance particulière? On a l'impression que c'est beaucoup plus convivial, que les gens se parlent plus les uns les autres. On retrouve un peu la tradition du voyage, un peu ce côté un peu nostalgique.
Oui, ça peut, mais alors ça dépend très clairement des situations. On peut trouver des situations où au contraire les gens ont besoin d'être au calme, tranquille, et la relation reste minimum. Et puis parfois, effectivement, oui, ça peut sans doute évoluer vers d'autres relations.
On peut se faire des amis dans le train de nuit?
Je pense qu'on peut se faire des amis n'importe où, mais et pourquoi pas dans le train de nuit, oui.
Merci Patrick, bonne nuit. Oui. Bon voyage, hein. À vous tous.
Mesdames, messieurs, dans quelques instants, notre train tardé de nuit arrivera en gare de Niceville, son terminus. Avant de descendre, nous n'avons rien oublié.
Je suis Elisabeth.
Alors Elisabeth, il est 9h15, nous sommes partis hier soir à 20h51. Comment s'est passée la nuit dans le train?
Alors écoutez, ça aurait pu se passer de manière catastrophique parce que je suis tombée sur un compartiment où ma couchette était cassée. Mais finalement, ça ne m'a pas trop gênée. Et puis il y avait un bébé dans un petit compartiment comme ça, à 4 personnes, 4 adultes. Quand il y a un bébé de 2 ans, ça aurait pu être très difficile. Mais l'enfant a été particulièrement mignon. Sa maman lui a raconté une histoire et il s'est endormi. Tout s'est très très bien passé et j'ai très bien dormi.
Alors nous sommes à la gare de Nice et nous allons prendre le train des Merveilles. C'est une ligne TER classique, mais qui est réputée pour le paysage qu'elle traverse. Une ligne qui va nous emmener jusqu'à Tende, à plus de 2h30 de route en train. Et cette visite touristique, très réputée à travers l'Europe, nous allons la vivre avec Stéphanie Cornil, qui est guide conférencière et qui a donc l'habitude d'emmener les touristes dans ce train pour leur faire découvrir notamment la vallée de la Roya. Stéphanie Cornil, bonjour.
Bonjour.
Alors, cette ligne, on va la prendre avec vous. C'est une ligne touristique, mais c'est à la fois un TER classique. C'est la particularité de cette ligne.
Tout à fait. C'est une ligne qui transporte les passagers jusqu'en vallée de la Roya. Et c'est ça qui est exceptionnel. C'est que c'est un moyen de transport qui évite une route difficile et en offrant effectivement des paysages absolument fabuleux et en étant elle-même un monument, si bien qu'elle a un grand intérêt.
On monte donc dans ce TER, qu'on appelle aussi le train des merveilles, direction Tende, qui sera notre terminus.
On est parti.
La région Sud et SNCF vous souhaitent un agréable voyage.
Et alors Stéphanie Cornil, nous arrivons dans l'une des parties importantes de cette visite sur le train des merveilles, qui est la vallée de la Roya.
Et oui, la vallée de la Roya qui en fait s'écoule du col de Tende jusqu'à Vintimille. Et donc nous avons une grande partie de cette ligne qui longe cette vallée entre Breil jusqu'au col de Tende. Et c'est la vallée qui a été particulièrement touchée pendant la tempête Alex.
Alors qu'est-ce qui fait la beauté de cette vallée de la Roya que les touristes viennent voir du monde entier sur cette ligne?
Alors cette vallée, en fait, est assez remarquable. Bon, moi, j'aime bien citer aussi l'aspect extrêmement naturel de cette vallée. On est dans des zones qui sont reconnues sur la planète comme étant particulièrement riches en biodiversité. Mais c'est aussi donc un paysage extrêmement encaissé et une vallée qui est actuellement parcourue dans le fond de la vallée par une route, mais la route n'existe là que depuis le XVIIe siècle. Auparavant, on circulait sur les hauteurs et on a donc un village qui correspond à l'ancienne route sur les hauteurs et que l'on voit pendant longtemps sur le trajet. Et c'est le village de Saorge qui est un des plus beaux villages de France. Donc un site que l'on voit tout le long du trajet et justement, nous, en tant que guide conférencière, on n'est pas seulement là pour expliquer l'histoire du train, mais l'intérêt, c'est aussi qu'on encourage les personnes à se déplacer sur le train pour vraiment profiter au maximum des vues qui sont de part et d'autre. En plus, bon, actuellement, le train roule à faible allure sur ce tronçon et les vues sur Saorge sont absolument éblouissantes.
TER Zou arrive en gare de Tende. Terminus du train.
Si le train des merveilles attire des voyageurs venus du monde entier, ils étaient 60 000, un record l'année dernière à l'avoir pris, notamment grâce à des tarifs très attractifs proposés par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En revanche, la situation est beaucoup plus compliquée pour les usagers qui doivent le prendre au quotidien pour travailler ou étudier. En effet, cette ligne TER qui relie Nice à Tende souffre d'un sous-investissement lié en partie à un désaccord entre les chemins de fer français et italiens. Résultat, actuellement, il faut 2h20 pour relier les deux villes, alors qu'elles ne sont distantes que de 80 km. Sur certaines parties du tronçon, les trains sont même obligés de rouler à 40 km/h, une situation que déplore Morgan Milano, l'adjoint au maire de Tende.
Le train est indispensable au rayonnement de la commune, à la fois pour des aspects socio-économiques et également des aspects environnementaux. Sur l'aspect social, c'est un vecteur de déplacement pour les travailleurs, aussi bien pour des gens de la vallée de la Roya et de la commune de Tende qui souhaitent se rendre sur le littoral, sur le lieu de travail, que des gens qui viennent travailler sur la commune de Tende, où on a par exemple deux centres hospitaliers avec environ 35 agents qui viennent travailler d'Italie. Et avec les difficultés qu'on connaît suite à la tempête Alex, ce sont des agents qui utilisent le train pour se déplacer entre la France et l'Italie.
Alors, on sait que parfois, il peut y avoir des rumeurs sur le financement, sur une éventuelle fermeture. Pour vous, ce serait inconcevable que cette ligne soit fermée?
Cette ligne était en grave danger avant la tempête Alex. Elle était vouée quelque part à être fermée. Il faut savoir que c'est une ligne qui a été détruite en 1945. Suite à la guerre et au départ des Allemands qui ont saboté et donc dynamité les différents ouvrages sur cette ligne. Elle a été reconstruite et réouverte en 1979. Cette réouverture s'est faite sur la base d'une convention entre la France et l'Italie. Et cette convention déterminait que l'Italie devait payer l'entretien de la ligne au titre des dommages de guerre entre Vievola, qui est un hameau de la commune de Tende, le plus proche de la frontière italienne, et la commune de Breil-sur-Roya. Il y a un peu plus de 10 ans de cela, l'Italie a cessé d'honorer quelque part cette convention et de participer à l'entretien de cette ligne. Donc il en a résulté une dégradation de l'état de cette voie, avec pour conséquence une diminution de la vitesse du train. Les trains, au lieu de rouler à 80 km/h, ne roulaient plus qu'à 40 km/h. Donc les conséquences, c'est que d'une part, les temps se sont rallongés, puisqu'il fallait plus d'une heure pour rejoindre Breil, et plus de 2 heures pour rejoindre Nice, alors que les temps initiaux étaient moitié moindres. Et d'autre part, on a diminué également la fréquence des trains mécaniquement, moins de trains pouvaient circuler sur cette ligne. Donc c'était vraiment une ligne qui était vouée à disparaître. À toute chose, malheur est bon, j'ai envie de dire, et aujourd'hui, la tempête Alex a révélé, aux yeux des pouvoirs publics notamment, l'importance de cette ligne, qui a toujours été soutenue par les habitants et les maires de la vallée. Et donc les pouvoirs publics ont pris conscience de l'importance de cette ligne, puisque après la tempête Alex, Tende était complètement... La route était rompue en tellement d'endroits que nous étions isolés du reste du monde, et le seul moyen de communication, hormis un pont aérien qui a été établi avec des hélicoptères, était la voie ferrée. Donc là, il y a une prise de conscience de l'importance de cette ligne. 30 millions d'euros ont été notamment investis, par exemple, pour conforter le pont Arcature qui se trouve à Fontan. Et aujourd'hui, cette ligne a même été identifiée comme un outil transfrontalier majeur au niveau du traité du Quirinal.
Que reste-t-il encore à améliorer pour rendre encore cette ligne plus performante ?
D'une part, raccourcir le temps de parcours. 2h20 aujourd'hui pour aller à Nice, c'est bien trop élevé, et notamment pour pouvoir être concurrentiel par rapport à la voiture. Hein. On met 1h15, grosso modo, pour se rendre de Tende aux portes de Nice. Donc il faut raccourcir les délais de parcours, et puis augmenter la fréquence, et que ces fréquences de circulation soient compatibles avec les horaires de travail des gens.
Et qu'est-ce qui vous manque en termes d'échéance, en termes de financement ? Pourquoi c'est si long et pourquoi ça reste si flou ?
Il est toujours difficile de pouvoir dialoguer avec la SNCF. Nous sommes une petite commune, donc nous faisons appel à nos interlocuteurs, la région, aujourd'hui la préfecture, qui nous soutient énormément dans le cadre de la tempête Alex. Effectivement, nous attendons des réponses concrètes sur le fonctionnement de cette ligne et sur un échéancier de travaux de la part de la SNCF.
Nous sommes désormais en région Occitanie pour évoquer le sort de la ligne Avignon-Pont-Saint-Esprit qui vient de rouvrir après 50 ans de fermeture au plus grand bonheur des voyageurs. En effet, cette ligne régionale était fermée au trafic commercial depuis 1973 car la SNCF ne l'estimait pas assez rentable. Alors, nous sommes ici à Bagnols-sur-Cèze, l'un des deux arrêts desservis par la ligne Avignon-Centre-Pont-Saint-Esprit. Il est 7h04 du matin et nous allons partir direction Avignon-Centre avec le premier train qui part de Pont-Saint-Esprit et qui donc va s'arrêter ici à Bagnols-sur-Cèze. C'est le train le plus fréquenté car c'est le train des travailleurs, des étudiants, mais aussi des lycéens. Nous allons voir avec eux en quoi la rouverture de cette ligne a-t-elle été importante, car aujourd'hui, les trajets ont été divisés par deux par rapport au car, qui va aussi à Avignon-Centre, et surtout par rapport à la voiture. Alors Manon, il est 7h21, on vient de prendre le train qui part de Bagnols-sur-Cèze, qui est le train le plus fréquenté le matin. Vous faites partie des usagers réguliers. En quoi ce train a-t-il changé les choses pour vous dans vos trajets au quotidien ?
Ça m'a permis de faire des économies d'essence et puis aussi de passer moins de temps en voiture. Parce que c'est vrai que c'est fatigant, 1h30 de trajet par jour. En voiture, c'est du stress au quotidien quand on arrive en ville. Puis moi, je prends des routes de campagne aussi, etc. pour arriver jusqu'à Avignon. C'est toujours un peu de stress. Et alors que là, c'est cool, je suis dans le train. J'ai pas à me soucier de la voiture, de la conduite. C'est plus reposant.
Alors, vu les prix du carburant, j'imagine que ce sont aussi des économies considérables, le fait de pouvoir prendre le train.
Oui, tout à fait. Je fais vraiment des économies. Avant, c'était un plein par semaine. Et maintenant, c'est un plein par mois. Donc oui, je fais vraiment des économies d'essence.
Alors, l'une des contraintes avec la réouverture de cette ligne, c'est que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de trains. Et résultat, est-ce que ça vous oblige à partir plus tôt par rapport aux horaires auxquels vous commencez ?
Oui, tout à fait. Alors, du coup, ça, par contre, c'est vraiment une contrainte. C'est-à-dire que je commence une heure plus tôt le matin. J'ai réussi à m'arranger avec mon employeur. Et le soir, je finis à 18h. Alors que si des fois, je voudrais finir plus tôt, c'est pas possible puisque mon train est à 18h30. Donc sinon, ça me ferait attendre. Donc voilà, je suis contrainte au niveau des horaires. Mais j'espère qu'il y en aura un peu plus. Alors là, ils ont donné les nouveaux horaires pour 2023. C'est pas encore ça. Il part même encore plus tôt le matin. Et il part un peu plus tôt le soir. Mais bon, c'est 10 minutes, quoi. C'est pas encore ça. Donc si un jour les horaires pouvaient être améliorés, ça serait quand même vraiment bien pour notre confort. Parce que c'est sûr qu'on gagne au fait qu'on n'est pas sur la route. On peut se reposer. Mais après, si on a la fatigue aussi de notre journée, de se lever tôt, de rentrer tard le soir... Bon, j'ai pas encore de vie de famille, mais bon, heureusement, parce que sinon, ça serait compliqué de partir à 7h le matin et revenir à 19h le soir. Voilà, je suppose qu'il n'y a pas tout le monde qui peut le faire, en tout cas.
Si cette ligne a pu reprendre du service, c'est en partie grâce à la détermination et à la mobilisation des usagers. À l'image de Laurette Bastarelli, la présidente de l'association des usagers TER SNCF de la rive droite du Rhône, qui s'est battue contre l'entreprise ferroviaire pendant plus de 10 ans.
J'ai l'habitude de dire que ce fut un long combat et une grande bataille du rail. Parce que il a fallu d'abord travailler avec les citoyens pour qu'ils expriment leurs besoins. Ça veut dire des pétitions, des réunions publiques, des rassemblements devant la gare. Ensuite, il a fallu également convaincre les élus locaux. Donc dans tout le territoire, et c'est un vaste territoire puisque c'est une ligne ferroviaire qui n'est pas une petite ligne, hein, c'est une grande ligne qui traverse 4 départements et donc beaucoup d'élus à convaincre qu'il y avait une faisabilité de réouverture pour cette ligne.
Qui a été le plus dur à convaincre, la région ou la SNCF pendant ces 10 ans de combat ?
Alors, ça a été la SNCF, je dirais, notre interlocuteur qui était le plus réticent puisqu'il voulait dédier cette ligne rive droite uniquement au fret. C'était une bataille avec, un bras de fer, on va dire, avec la SNCF. C'est une grande dame, la SNCF. Hein.
Alors, pouvez-vous nous raconter pour qu'on comprenne bien la difficulté, hein, le combat au quotidien, parce que finalement, vous représentez une association d'usagers face au géant mastodonte qu'est la SNCF, c'est un peu David contre Goliath pendant 10 ans là.
Ça veut dire que ça ne pouvait pas se faire hors organisation avec les régions. Convaincre, ça signifie prendre son bâton de pèlerin, taper à la porte des élus pour leur demander de débattre avec les conseillers municipaux et de délibérer en faveur de la réouverture de cette rive droite. Vous savez qu'une délibération, ça monte directement au préfet, donc ça monte directement à l'État, donc ça monte directement à la SNCF. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez ressenti le 28 août, le jour de l'inauguration, la veille du premier train commercial qui, lui, était le 29 août ?
Bon, beaucoup d'émotions, de satisfaction, bien entendu. Surtout, ce qui était satisfaisant, c'était de voir, on a eu 400 personnes qui sont venues à la réouverture. Les mines réjouissent des gens. Voilà. On sentait le contentement. On n'a pas beaucoup l'occasion de voir une foule réjouie. Hein. Et bien voilà, c'est ça qui m'a vraiment marqué le 28 août. Oui.
Une bataille qui n'aurait pas pu être remportée non plus sans le soutien de la région qui a financé intégralement les travaux de la remise en service de la ligne Avignon-Pont-Saint-Esprit. Une décision prise en 2016 lors des états généraux du rail et de l'intermodalité, rappelle Jean-Luc Gibelin, le vice-président du conseil régional d'Occitanie en charge des mobilités et des infrastructures.
C'est très clair, il y a zéro euro de la part de l'État sur cette réouverture, c'est à 100% par la région. Le coût de l'ensemble de la réouverture, ce sont 100 millions d'euros financés à 100% par la région Occitanie.
Qu'est-ce qui a été compliqué pour retrouver les financements, pour se mettre d'accord avec les SNCF, pour ouvrir cette ligne, qui, faut-il le rappeler, a été fermée pendant 50 ans au trafic voyageur ?
Ce qui est compliqué, ça a été de pousser à ce que la décision puisse devenir opérationnelle. Les grands penseurs de la direction nationale de SNCF Réseau, ayant décidé, sans venir d'ailleurs sur le terrain, et pour ce qui concerne la direction nationale, qu'il ne fallait pas réouvrir cette ligne. Donc tout a été mis sur notre route pour compliquer le dossier. Nous avons eu heureusement des interlocuteurs régionaux à SNCF Réseau qui ont été eux facilitateurs et qui ont permis d'obtenir cette situation. D'abord cette proposition d'ouverture provisoire et puis de trouver des solutions comme par exemple celle d'avoir un modèle unique de passerelle pour l'ensemble des gares. C'est ce que nous allons mettre en œuvre, ce qui va nous permettre d'être plus rapide dans la mise en place de ces passerelles.
Alors j'imagine que ce qui est compliqué, entre guillemets, c'est que la SNCF estimait que cette ligne était, entre guillemets, pas assez rentable. C'est ce qui a compliqué les choses, j'imagine.
Oui, c'est que il y avait la notion de rentabilité, mais il y a, je crois, au-delà, le fait que nous étions en butte à des théories qui sont aujourd'hui, je crois, dépassées, mais qui étaient en cours de « il ne faut pas réouvrir », et puis qui étaient sur l'idée qu'il y avait des petites lignes. Et nous, nous y sommes opposés avec la présidente Delga parce que nous considérons qu'il n'y a pas de petites gens, il n'y a pas de petits territoires, donc il n'y a pas de petites lignes. Il y a des lignes de desserte fine du territoire, il y a des lignes qui sont dans le milieu rural, mais c'est absolument péjoratif de le qualifier de petit parce que ça sous-entendrait qu'il y a des grands et donc ça sous-entendrait qu'il y a ceux qui ont le droit et ceux qui n'auraient pas le droit.
Alors justement, en quoi le train est-il important pour ces communes, je pense notamment à Pont-Saint-Esprit ou encore à Bagnols-sur-Cèze? En quoi c'est important pour l'aspect économique, mais j'imagine aussi pour le désenclavement?
La mobilité, c'est le droit à ne pas être assigné à résidence. Eh bien oui, une partie de la population de ces communes avait le sentiment jusqu'à présent d'être assignée à résidence et ne pouvoir sortir que avec la voiture individuelle, avec le coût aujourd'hui des carburants, c'est évidemment compliqué, ou avec des liaisons en car qui n'étaient pas les plus performantes. Nous avons fait d'ailleurs un effort pour qu'il y ait une complémentarité entre le car et la route. Et aujourd'hui, en fonction des horaires, eh bien, il est possible pour une habitante ou un habitant de Pont-Saint-Esprit de faire un voyage en train et un retour en car ou l'inverse, avec cette possibilité d'accès et d'avoir une mixité des transports en commun.
Alors nous sommes désormais à Saint-Ouen, ici en Seine-Saint-Denis, en région parisienne, au siège d'Alstom, l'un des plus grands constructeurs ferroviaires dans le monde, qui fabrique des tramways, des métros, mais aussi l'un des trains les plus populaires et les plus connus, le TGV. Ici, nous allons voir comment le constructeur prépare les trains du futur, en particulier sur le TGV-M, M comme modulaire, qui sera commercialisé par Alstom et la SNCF à partir de fin 2024, début 2025. La SNCF en a commandé 115.
Stéphane Ferré-Beaumont, vice-président en charge de l'innovation et des mobilités intelligentes chez Alstom.
Alors Stéphane, on est ici dans le showroom où Alstom présente ses différents matériaux roulants, que ce soit les trains régionaux, mais aussi des TGV. Avec vous, en particulier, parler du TGV du futur, ce qu'on appelle le TGV-M, M comme modulaire. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui sera révolutionnaire pour le client, pour ce qu'on appelle l'expérience passager?
Alors l'expérience passager, Notre leitmotiv, c'est rendre le TGV, mais en gros tous les matériels roulants rail, très attractifs pour le passager, pour que ça devienne un choix plutôt que quelque chose d'autre. Donc le choix de la mobilité durable, le choix d'une expérience vécue à l'intérieur même du train.
Alors du coup, est-ce que vous nous donnez des exemples concrets? Vous parliez des sièges par exemple, pour qu'on puisse bien s'imaginer quand on est un passager. Qu'est-ce qui va changer sur ces sièges et qui n'existait pas avant et qui existera demain dans les futurs TGV? Concrètement, par exemple, bien concret, c'est quoi le siège intelligent? C'est quoi le siège connecté?
Le siège connecté, c'est quelque chose qui vous permet d'être en permanence, j'ai envie de dire, informé de ce qui se passe dans le train. Donc vous pouvez l'être via vos propres moyens, mais vous pouvez l'être aussi via éventuellement un écran intégré au siège, éventuellement quelque chose qui va permettre de personnaliser l'endroit où vous êtes par le siège qui sait, lui, où vous êtes à l'intérieur du train et qui va pouvoir vous donner l'ensemble des informations.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que la personnalisation du siège ou du service va vous permettre de commander éventuellement des services à bord. restauration, gestion des bagages, tout ce genre de choses va être lié à votre position à l'intérieur du train. Et donc, le siège va vous permettre de dire, voilà comment je vais vous gérer en tant que passager.
Alors, ce TGV, il s'appelle TGV M comme modulaire. Mm-hmm. Ce qui est aussi révolutionnaire, c'est qu'on pourra, en une nuit, réduire le nombre de wagons, par exemple, en fonction de la demande.
Absolument. La flexibilité, c'est quelque chose qui est nécessaire pour s'adapter à la demande. On a parlé tout à l'heure précédemment aussi de la gestion de l'énergie. Il est important d'avoir des trains qui soient configurés en fonction du nombre de passagers pour éviter d'avoir des trains vides qui circulent. C'est pas très bon d'un point de vue consommation d'énergie. Et de pouvoir moduler la forme des trains, le convoi, de façon à répondre au mieux à la demande en fonction des périodes de l'année, en fonction des périodes à l'intérieur de la journée, en fonction également de l'usage qui va être fait. C'est-à-dire que la modularité, ça permet aussi d'avoir un matériel qui, par exemple, en semaine, va être totalement dédié à des gens qui voyagent de façon professionnelle, alors qu'en période de vacances ou en période de week-end, on va avoir effectivement une utilisation qui est totalement différente. Et donc la modularité, elle vient aussi servir ce besoin-là.
Ça veut dire, par exemple, mettre plus de première classe dans l'année et en semaine, et mettre plus de deuxième classe pendant les vacances d'été, par exemple.
Alors, ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire aussi réfléchir au fait que quand on est en vacances, on a probablement beaucoup plus de bagages, et donc d'avoir des espaces réservés aux bagages beaucoup plus importants, ou alors d'avoir des bagages spécifiques. Donc, on peut penser à prendre son vélo, on peut penser à prendre éventuellement d'autres types de bagages qui, dans une utilisation, j'ai envie de dire plus professionnel, si on parle de longue distance, ne serait pas là. On peut aussi, là aussi, sur la modularité, avoir des espaces dédiés. Encore une fois, une famille a probablement besoin d'être gérée en termes de modularité différent d'un jeune adulte célibataire ou, encore une fois, de quelqu'un qui voyage pour des besoins professionnels.
Ça se traduira comment, par exemple, de quoi pourra bénéficier une famille qui voyage dans un TGVM ?
D'avoir un espace configuré au niveau d'un ensemble de sièges, d'avoir éventuellement une isolation phonique par rapport au reste de la voie, d'avoir la possibilité de gérer les enfants d'une manière un petit peu plus différente, sans que ça devienne quelque chose d'impactant pour le reste des passagers dans la voiture.
Ça veut dire des petits compartiments.
Alors, je dirais pas forcément compartiments, ça peut aller jusqu'à des petits compartiments, mais surtout des espaces où on va s'assurer que cet espace-là est vécu et reconnu par les gens qui sont à l'intérieur et pas forcément subi par le reste de la voiture.
En attendant, si le gouvernement veut respecter ses objectifs en matière d'écologie et répondre aux défis d'une mobilité plus verte, en incitant les Français à privilégier les transports en commun plutôt que leur voiture, il devra investir massivement dans le rail. En effet, avec une moyenne de 30 ans, notre réseau ferroviaire fait partie des plus vieux d'Europe.
Le train peut-il s'offrir une nouvelle jeunesse ? Un reportage d'Hakim Kasmi avec Frédéric Kirou à la prise de son et Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invité de ce grand reportage, l'historien Clive Lamming et Alain Krakowicz, directeur de TGV Intercité. Alors, ce reportage s'est conclu avec le train du futur, un train qui devra vivre avec le changement climatique, Alain Krakowicz. Or, les rails, les caténaires et même les systèmes de signalisation sont sensibles aux fortes chaleurs. On l'a vu avec la canicule cet été. Et puis ce matin, à l'inverse, il y avait des chutes de neige en Haute-Savoie qui ralentissaient le trafic. Alors, qu'est-ce qui est fait justement pour limiter à l'avenir l'impact de ces aléas climatiques ?
Alors c'est vrai que c'est un énorme sujet pour nous. On a énormément de personnes côté de l'infrastructure, côté de la maintenance du matériel, de l'ingénierie qui réfléchissent à ce qu'on peut faire. On a tiré les leçons de ce qui s'est passé cet été avec la canicule. C'est vrai que notre réseau, nos trains ont souffert. On était préparés. D'ailleurs, il y a des choses qui se sont plutôt pas mal passé, par exemple, côté climatisation des trains. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on a eu des incidents, des retards. Et donc, on a bâti un plan d'action très, très ambitieux qui doit nous permettre, en tout cas pour l'été 2023, parce que de toute façon, on sait qu'on aura plus de canicules et qu'on en aura donc tous les ans, d'être mieux préparé. Donc, on est même allé voir ce qui se passait, et on le sait, parce qu'il y a des trains qui circulent dans des pays très chauds, en Arabie Saoudite, au Maroc. Et donc, On est allé voir ce qu'on pouvait faire évoluer, en particulier en termes de maintenance. C'est clairement un de nos axes de travail dans les mois qui viennent.
Et la transition écologique passe notamment par un plan de sobriété énergétique à la SNCF qui doit diminuer sa consommation d'énergie de 10% d'ici 2 ans. Comment vous allez faire ?
Alors la principale source d'économie d'énergie, c'est un système qu'on appelle l'éco-conduite. C'est assez intéressant. On a fourni à tous nos conducteurs sur un iPad un système qui leur donne l'information pour être à la bonne vitesse, qui leur permet évidemment de rester à l'heure, mais aussi d'économiser au maximum de l'énergie. Et il faut savoir que le ferroviaire, avec ce contact métal-métal, permet d'avoir en fait des possibilités d'absence de freinage pendant, par exemple, près de 100 km sur Paris-Lyon. Donc, on n'accélère pas et on a la possibilité donc d'économiser énormément d'énergie. Et donc, on a maintenant la possibilité d'aider nos conducteurs pour optimiser ça. Et ça, ce système, OptiConduite, devrait nous permettre de gagner ces 10% d'économie d'énergie.
Les pilotes dans l'aérien font l'équivalent. Hakim Kasmi.
Oui, faire des efforts sur l'écologie, c'est aussi avoir des trains plus propres. Aujourd'hui, la moitié des lignes ne sont pas électrifiées. Un quart des TER roulent au diesel. Vous travaillez là aussi, par exemple, sur les trains bimodes avec des batteries, mais aussi, surtout, à l'avenir, des trains qui rouleront à l'hydrogène, notamment sur le trafic régional.
Oui, on a vraiment la volonté d'explorer toutes les solutions. Et il faut avoir conscience que chaque ligne a ses particularités. Et donc, à certaines lignes, la solution de la mixité d'avoir à la fois effectivement des systèmes bimodes sur batterie, par exemple, mais aussi sur certaines lignes de pouvoir mettre en place l'hydrogène. Et ça dépendra, par exemple, de la façon dont on peut arriver à avoir des stations pour l'hydrogène. Donc, on étudie toutes les solutions possibles pour arriver à cet objectif, effectivement, de pouvoir se passer du diesel le plus vite possible.
Mais alors, pour faire face à l'avenir, la France a quand même un handicap important, à savoir un réseau vieillissant. Je crois que c'est le plus vieux d'Europe, hein, Clive Lamming. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ?
On en est arrivé là, je dirais, d'une manière historique et endémique. Dans le monde entier, les réseaux ferrés ont disparu pour parfois le tiers, voire même le quart, même pour certains pays, la moitié. Par exemple, en France, en 1933, la SNCF avait 27 000 km de lignes et 12 511 gares. Je le sais d'une manière très précise, j'ai fait un livre là-dessus.
Vous en avez fait plus.
Aujourd'hui, la SNCF a 29 000 km de lignes. Elle a 2820 gares. C'est-à-dire que les trois quarts des gares ont disparu et presque la moitié des voies ferrées. Mais il n'y a pas que la SNCF dans le monde entier. Par exemple, les États-Unis sont passés de 400 000 km de lignes à moins de 200 000 aujourd'hui. Et la Russie, qui n'a jamais eu beaucoup de lignes, en a encore moins que jamais. Par exemple, notre cher Poutine a pratiquement perdu, depuis la chute de l'Union soviétique, on peut parler de la chute du réseau ferroviaire russe qui a été diminué de près du tiers. Autrement dit, il y a une disparition à peu près continuelle du chemin de fer. Lorsque Apollinaire disait, vous savez, la fameuse phrase « crains qu'un jour un train ne t'émeuve plus », ce n'était pas qu'il craignait qu'on vienne blaser, non, c'est qu'il craignait que les chemins de fer disparaissent, ne soient plus là pour nous émouvoir. En 1918, déjà, le recul du chemin de fer commençait. Le réseau actuel de la SNCF en kilométrage, c'est à peu près celui de 1880. C'est-à-dire que nous sommes revenus en arrière. Bien sûr, les voyageurs kilomètres, c'est l'unité de mesure de la productivité SNCF, n'ont jamais été aussi élevés, 95 milliards, alors que c'était à peine 17-18 milliards en 1880. Mais regardez, le fret, par exemple, a reculé. Après avoir été à son apogée vers 1974, aujourd'hui, le fret est tombé, si vous voulez, à moins de 17 je crois, milliards de tonnes kilomètres. C'est-à-dire que le chemin de fer a reculé sur ce plan-là, alors que les transports ont toujours progressé. C'est-à-dire que la part modale du chemin de fer en France est très faible, c'est du 10%. Aux États-Unis, par exemple, où tout n'est pas mauvais, eh bien, c'est près de 40%. Donc, le chemin de fer a moins reculé pour le fret aux USA, par exemple, qu'en Europe. Et ça, c'est dommageable. Alors, vous parliez tout à l'heure de sobriété, ça m'amuse beaucoup. C'est autant demander à un chauve de faire des économies de coiffure. La SNCF, le chemin de fer, par nature, est sobre. Savez-vous que pour tirer une tonne sur la route, il faut pratiquement, je dirais, 10 chevaux. Sur le rail, il faut qu'un cheval. un locotracteur de 2000, excuse-moi, une locomotive diesel de 2000 chevaux, le BB67 000, peuvent tirer jusqu'à 2000 tonnes, un cheval par tonne. Quant à l'aviation, c'est de l'ordre de 100 chevaux par tonne. Le train transporte en France 50 fois ce que transporte l'avion, mais je dirais pollue presque 50 fois moins. Alors demander à la SNCF d'être sobre, je veux bien, ça me fait rire.
Alors,
parce qu'elle est la sobriété même, et par définition. Quand vous prenez le train, le prix de l'énergie ne coûte que 4% de votre billet.
Oui,
dans
oui.
votre voiture, c'est du 40%, et en avion, c'est 70%.
Alors ce qu'il y a quand
sobre,
même, c'est...
Oui, même.
Bien sûr, mais alors, Alain Krakowicz, oui. vous avez quand même des dépenses importantes, hein, du fait de la consommation électrique. Avant l'inflation, je crois que la traction des trains coûtait 600 millions d'euros par an. Vous me dites si je me trompe. Mais donc, l'an prochain, là, la facture risque d'exploser.
Oui, elle va probablement doubler, même si tout n'est pas encore écrit. Donc, on essaye de s'adapter par rapport à ça. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Claf, parce que je suis complètement d'accord avec ce qu'il disait. Le déclin du chemin de fer pendant presque un siècle et demi, on sait pourquoi, en fait. Hein, c'est le choix de la voiture, c'est le choix de la route. On le voit évidemment aux États-Unis. Moi, j'ai un petit message d'espoir quand même. C'est que on constate maintenant, depuis quelques mois, voire depuis quelques années, qu'il y a ce retour au train. Alors que là, il en parlerait sans doute mieux que moi, mais tout est vraiment fondé sur ce que veulent vraiment les voyageurs. Et moi, le constat que je fais aujourd'hui, c'est que nos trains sont pleins comme ils ne l'ont jamais été. Vous le disiez tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup aimé le reportage de tout à l'heure. On voit, par exemple, un homme d'affaires qui prend le train de nuit. On a constaté cet été des gens qui n'hésitaient pas à prendre un TGV pendant 7 heures alors que l'avion dure une heure. Il y a un choix aujourd'hui qui est en train d'être fait. Et ma conviction, c'est que si ce choix, il est vraiment exprimé de façon très claire par l'ensemble de la société, ça orientera des décisions collectives et donc aussi de l'État vers des financements qui permettront de remettre en état parfaitement la ligne entre Nice et Tende, de développer encore nos projets. Donc, je suis assez optimiste. C'est l'État qui a décidé de relancer, par exemple, les trains de nuit. C'était pas une évidence. On perd de l'argent sur les trains de nuit. Mais si l'État le choisit, parce que la collectivité le choisit, nous, on est ravis de le faire. Et parce que, forcément, à un moment donné, on a, de ce fait, avec ces subventions, la possibilité d'équilibrer nos comptes. Et donc, c'est aussi comme ça qu'on a relancé, malgré tout, ce TER. Alors ça, c'était sous l'initiative de l'Occitanie. Donc moi, je suis assez optimiste sur le fait qu'on sent un vrai renouveau et que la tendance terrifiante à la baisse que décrivait Clive, elle est en train de s'inverser. Donc c'est vrai qu'on essaie de gérer ces questions d'énergie, vous avez raison. Mais là aussi, très simplement, sur l'année 2023, pour répondre à votre question, on va profiter de cet élan vers le train. Et donc, le coût de l'énergie qu'on subit tous, et voilà, c'est quelque chose qu'on doit essayer de traiter. Nous, notre ambition, ça a été de se dire, on va pas se renfermer. On aurait pu dire, pour compenser le coût de l'énergie, on va réduire le nombre de trains. Peut-être qu'il y a 20 ans, 30 ans, c'est ce qu'on aurait fait. Là, la décision, elle est contraire. Elle a été de dire, on va continuer à investir. On ne baisse pas nos investissements en 2023. On ne va pas baisser le nombre de trains. L'État, d'ailleurs, nous a dit très clairement, on ne baissera pas la vitesse des trains et donc on ne diminuera pas le nombre de trains malgré les problématiques d'énergie. Et on fait le pari que nos trains vont être encore plus pleins qu'ils n'ont été cette année. Et on fait tout pour ça. Vous savez qu'on a lancé la carte avantage, c'est un succès incroyable. 5 millions de voyageurs maintenant de Français longs.
Alors même si on a parfois un peu de mal à se retrouver dans les tarifs, dans les offres.
Je peux vous résumer ça en une phrase, vous verrez que c'est très simple.
Alors je reviens sur le train de nuit. Vous y croyez, vous, Clive Laming, à l'avenir du train de nuit? Parce que ce sont des lignes qui ont disparu les unes après les autres parce qu'elles étaient très déficitaires.
En ce qui me concerne personnellement, moi-même, je ne dors bien que dans mon lit. Je ne peux pas dormir dans quelque chose qui bouge et qui fait du bruit. Maintenant, oui, je crois dans le train de nuit. Mais vous savez, le train de nuit, dès 1847, au Royaume-Uni, il y avait des voitures-lits. En France, il y en a dès à peu près la même époque. On a toujours voyagé de nuit parce que le train ne craint pas la nuit. Il ne craint pas la nuit. À l'époque, les diligences s'arrêtaient prudemment au coucher du soleil. Ah oui. Il y avait des fondrières partout. Les trains, eux, roulent la nuit parce que le train est le seul véhicule qui soit guidé. Je dis bien guidé. Tous les autres, on est lié au hasard de la vue, des intempéries. Enfin, il vous en arrive de toutes les couleurs quand vous prenez votre voiture. Surtout en ce moment, par exemple, où les routes commencent à être verglacées. Le train ne craint pas ça. Donc finalement, le chemin de fer a cet avantage absolument immense, c'est d'être à la fois éternel et étranger à beaucoup de contraintes. Mais vous savez, le problème, c'est que si on comparait avec les routes, ce qui s'est passé pendant un siècle pour le chemin de fer, c'est comme si on avait supprimé tous les petits chemins, toutes les petites nationales, toutes les petites départementales, et qu'on avait gardé que les autoroutes. Ah, l'autoroute, on est nombreux, tout le monde va vite, tout le monde va loin. C'est merveilleux, c'est donc rentable. Mais je déteste ce mot de rentable. Et vous pourriez vivre dans un pays où il n'y aurait plus de routes, de petites routes, de départements. C'est ce qu'on a fait avec le chemin de fer. Je ne pense pas qu'on le fera avec les routes, parce que l'automobile est quelque chose à la fois d'archi-subventionné, d'archi-aidé, pas autant que l'aviation, mais quand même pas le moins. Alors que le chemin de fer, finalement, on laisse se débrouiller avec toutes ses vertus. C'est une fille vertueuse qu'on abandonne à elle-même, au lieu de l'aider. Moi, je vous dis franchement, j'aimerais que le chemin de fer soit comme les transports, la santé, la justice, c'est-à-dire soit un service public auquel tout le monde participe.
Hakim Kasmi.
Alors, Anna Krakovic, on voit aujourd'hui, certes, qu'il y a un engouement pour le train. Il y a le bouclier tarifaire qui va protéger notamment les voyageurs loisirs, mais pas ceux qui voyagent en semaine, les professionnels qui ont une hausse sur leur billet. Concrètement, aujourd'hui, car il y a des trains en retard, notamment en Hauts-de-France, on voit l'infrastructure, certes, il y a des investissements, mais combien faudrait-il en euros, vous qui dirigez en partie les SNCF, combien faudrait-il pour que, entre guillemets, on revienne à des niveaux acceptables, par exemple, comme en Suisse ou encore chez nos voisins allemands?
Ben vous savez, il y a une vraie question sur le réseau, et donc on a effectivement besoin d'argent pour ce réseau. Et je confirme ce que dit Clive. C'est vrai que c'est, là aussi c'est un choix de société. Si on veut avoir les petites lignes, parce que je suis d'accord avec ce qui était dit, ce sont des lignes d'aménagement du territoire, mais qui vont permettre aussi d'amener nos voyageurs sur les grandes lignes. C'est un choix de société, et s'il y a une expression très claire, moi je n'ai pas de doute sur le fait que à la fois les régions et puis l'État mettront l'argent pour aménager ces lignes, pour faire la maintenance. Et il y a d'abord une vraie question de maintenance sur le réseau. Maintenant, vous avez fait référence aux Hauts-de-France, avec c'est vrai, des
il y a beaucoup de retard, des trains supprimés.
Avec des trains supprimés, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tout à fait les conducteurs. Moi, je suis un peu agacé par ça, parce que c'est vrai qu'on a nos parts de responsabilité évidentes, mais on a quand même oublié très très vite ce qui s'est passé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on était tous dans le Covid. Il y a 2 ans, on était en confinement. Comment est-ce qu'on recrute, comment est-ce qu'on forme des conducteurs quand tout le monde est obligé de rester chez soi? La formation d'un conducteur en télétravail, c'est pas très bien. Non. Ça marche pas bien. Donc, on a malgré tout recruté, on a malgré tout formé, mais c'est vrai qu'on n'a pas formé et recruté le nombre de conducteurs dont on aurait eu besoin, et les conséquences, elles se retrouvent 2 ans après. Alors on a notre part de responsabilité, c'est clair, mais je trouve qu'on oublie un tout petit peu ce qui, à l'époque, semblait normal. Et bah, quand on faisait circuler quasiment 0 train, hein, il y a eu des périodes où on faisait circuler quasiment 0 train, 7% des TGV, c'est pas complètement évident de se dire bah on va embaucher comme avant. Voilà, qui nous aurait pris pour des fous si on avait fait ça. Malgré tout, d'ailleurs, on l'a fait. On a recruté, alors certes, pas assez. Donc voilà, on a effectivement aujourd'hui un peu des conséquences. Moi, je suis assez optimiste sur le fait que ça va prendre un peu de temps, parce que forcément, maintenant, il faut recruter, il faut former. On ne fait pas un conducteur comme ça en quelques semaines. Mais on va y arriver et on va revenir à une situation normale. Ça, ce sera pour toute la partie des trains. Et sur la partie du réseau, là aussi, moi, je suis convaincu qu'il y aura une prise de conscience générale qui fera qu'on arrivera à faire rouler nos trains. Juste un dernier point sur les trains de nuit, parce que ce que disait Clive est vraiment intéressant. Les trains de nuit, c'est très symbolique de ce qui se passe aujourd'hui. Vous le disiez, maintenant, on a 4 trains de nuit. On espère en pouvoir en faire rouler 10. Un train de nuit, ça perd forcément de l'argent. Je vous donne juste une image qui est très simple. Un siège dans un TGV, on peut le vendre 4 fois à 5 fois par jour, parce que le TGV fait des allers-retours. Une couchette dans un train de nuit, par définition, on la vend qu'une fois. Donc, forcément, entre guillemets, un train de nuit, c'est 4 fois moins efficace qu'un TGV. Donc, forcément, ça ne peut pas être équilibré économiquement. Mais pour autant, et je suis d'accord, moi, je n'utilise pas le mot rentable, si la société veut des trains de nuit, eh ben, l'État en est le représentant, et il nous demande de mettre en place des trains de nuit, et il les finance, et c'est très bien comme ça. Vous savez que j'ai reçu dernièrement mon collègue d'Ukraine, qu'on va essayer d'aider, il est venu nous voir. En Ukraine, 80% des trains longue distance sont des trains de nuit. Voilà, donc moi je suis convaincu de l'avenir des trains de nuit.
Alors vous parliez financement, on peut dire que les régions font de gros efforts en termes de financement, elles sont assez volontaristes parce qu'elles mesurent bien hein, les enjeux. Ah, vous dites non, Clive Lyming, parce que quand même, pour une ville et pour une petite ville, avoir une gare, c'est très important. Non,
pour, par exemple, reprendre la fameuse ligne de Nîmes à Lyon, qui a été ressuscité jusqu'à Pont-Saint-Esprit. Donc la civilisation vit jusqu'à Pont-Saint-Esprit parce qu'il y a Carole Delga. À partir de là, c'est le désert. Pourquoi ? Parce qu'on passe chez Laurent Wauquiez. Je connais bien le coin. Je suis natif de l'Ardèche, oui. Enfin, de par mon côté français.
Donc il y a disparité d'une région à l'autre.
Il y a une disparité. Ce sont bien les présidents de région qui ont un pouvoir, considérable. La SNCF, là, n'y est pour rien parce que, effectivement, les présidents de région décident, financent. On en a la preuve avec l'Occitanie, qui est capable donc d'investir 100 millions, mais allez parler de chemin de fer à Laurent Wauquiez, il vous dira non. Ouais, à la limite,
il faut quand même corriger parce que moi
les autoroutes, il aime les LGV.
Partout en France, il faut quand même reconnaître que sur l'ensemble des régions françaises, grâce à la décentralisation qui a été mise en place maintenant il y a presque 20 ans, il y a quand même eu un renouveau du TER qui est formidable. Alors aujourd'hui, on se plaint un peu du TER, mais enfin, faut quand même regarder un tout petit peu ce qui s'est passé depuis 20 ans, et c'est effectivement grâce aux régions qui ont mis un argent considérable sur les TER. On regarde toujours le verre à moitié vide, mais dans toutes les régions, il y a eu beaucoup d'argent qui ont été mis sur les TER. Tous les TER ont été rénovés et c'est formidable. C'est aussi ça qui a sauvé le train et le TER en France.
Hakim.
Alors justement, le président de la République veut intensifier les trains, notamment en région, mettant en place des RER régionaux. Ça ne sera notamment le cas à partir de dimanche dans la région Grand Est, à Strasbourg. Aujourd'hui, quand on voit l'état des infrastructures, avons-nous les moyens de mettre en place ces RER provinciaux ?
Ça demande incontestablement des investissements extrêmement importants. On les a chiffrés de façon très moyennée et de façon très, très, très anticipée à 1 milliard par grande agglomération, par RER. Donc on voit que ça demande effectivement de grands investissements parce que le principe du RER, c'est de transformer en fait des lignes de TER en augmentant la fréquence et en les rendant traversants, un peu comme les RER à Paris. Donc forcément, ça demande des investissements sur des infrastructures.
Combien ?
Je vous dis, 1 milliard par agglomération. Donc, si vous voulez 10 RER, ça fait 10 milliards. Si vous en voulez 13, ça fait 13 milliards. Tout ça, c'est très approximatif, puisqu'on n'a pas encore fait du tout les études, mais ça vous donne l'ordre de grandeur. Et là aussi, moi, je suis très content de voir la revue de presse suite aux déclarations du président de la République où toutes les grandes villes françaises se sont enthousiasmées à l'idée de pouvoir développer leur projet de RER. Et vous avez raison, Strasbourg est la première et ça commence dimanche.
On a parlé des régions, de l'État. Des financements peuvent aussi venir de l'Union européenne ?
Oui, et d'ailleurs, chaque projet de développement a sa part de financement en général qui vient de l'Union européenne. Il y a un mix Union européenne, État, région, collectivité. Ça me permet juste quand même de rebondir sur le fait qu'on avait un peu l'impression que SNCF Réseau était responsable de ne pas avoir rouvert telle ou telle ligne. Aujourd'hui, en termes d'investissement, de développement, de création de nouvelles lignes, ça ne repose pas sur des financements des SNCF Réseau. D'ailleurs, c'est la loi qui le dit. Et c'est bien, effectivement, toutes les collectivités, au sens très large du terme, y compris l'Europe, qui permet de financer des nouvelles lignes.
Merci Alain Krakowicz, merci Clive Lamming. Le train peut-il s'offrir une nouvelle jeunesse ? Le grand reportage de cette semaine était signé Hakim Kasmi, avec Frédéric Kérou à la prise de son dans le train de nuit, Étienne Rouche à la technique, réalisation Annie Brault. Merci comme chaque semaine à la documentation de Radio France et à Caroline Beneteau au web. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur l'appli Radio France et sur franceculture.fr.